session théologique par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arles le 10 août 1988, conférence de l'après-midi.
Dieu sépara, donc question, hein, Dieu sépara la lumière de la ténèbre, premier récit. La terre était déserte et vide. La ténèbre au-dessus de l'abîme, au-dessous de l'abîme. S'agit-il de la même ténèbre avant et après la création de la lumière? C'est pas très précisé dans le texte. Hein. Je t'ai dit ce matin que la ténèbre et les ténèbres avaient des sens divers. Ça, c'est sûr. Et alors, quand il s'agit ici, tout à fait, de ce récit, je crois que nous pouvons simplement constater ceci. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Je prends la traduction hostie. J'aime bien. Hostie est un paysan qui faisait son sillon très droit. Je l'ai connu, c'est un ami, alors je l'aime beaucoup. La Bible de Jérusalem est plus littérale, plus littéraire. Tandis qu'Hostie est plus proche du texte. Je dis à titre de renseignement. C'est, la Bible de Jérusalem est excellente, mais je crois que la plupart du temps, Hostie est mieux. L'avantage d'Hostie aussi, c'est que c'est un traducteur. La Bible de Jérusalem, c'est de multiples traducteurs. Vous voyez ? Mais je dis ça, c'est pour la ténèbre et les ténèbres. Vous voyez ? Bon. Alors, Dieu appela le jour et les ténèbres, il appela la nuit. Bon. Je crois que lorsque la terre était un chaos, il y avait des ténèbres au-dessous de l'abîme. La même signification. Je crois que c'est analogique. On oppose d'un côté lumière et ténèbres. Là, l'opposition est facile à comprendre. La séparation est facile à comprendre. Lorsqu'on parle de la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessous de l'abîme. C'est de montrer l'état dans lequel, de fait, la terre se trouvait. Et on la distingue du ciel. Vous voyez, c'est comme si vous preniez le ciel ici, au début, et le ciel un peu plus loin. Il y a des précisions plus grandes, et puis c'est tout. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est tout à fait autre chose. Les ténèbres, ça va jusqu'en dessous de la terre. Aspect abyssal. Et les ténèbres se séparent de la lumière. S'il n'y a pas de lien entre la lumière créée et la ténèbre, pourquoi dire sépara qu'elles étaient déjà avant, n'étaient pas confondues? C'est pour ça que je crois que c'est, il ne faut pas trop chercher une logique en faisant attention. C'est toujours... Ce qu'il y a de terrible dans ces récits, c'est que ces récits ont un mode mythique et symbolique. Hein? Dites-vous bien ça. Un mode mythique et symbolique. Je n'aime pas de dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse, ce sont des mythes. Mais je précise qu'il y a un mode mythique symbolique. Vous savez comment on distingue le mythe du symbole? Tout symbole implique un mythe, non, tout mythe implique un symbole, mais tout symbole n'est pas mythique. Bon. Le mythe implique un récit par rapport à l'homme, l'origine, le terme. tandis que le symbole est beaucoup plus vaste. Et quand il regarde l'homme, il regarde une fonction de l'homme. Donc il faut, je crois, quand on lit les 11 premiers chapitres de la Genèse, il faut dire qu'on est devant un langage symbolique mythique. De sorte que ténèbres, avant et après, c'est ténèbres, distinctes de la lumière. Et quand on dit que Dieu sépare la lumière des ténèbres, c'est pour préciser que les ténèbres ne sont pas la lumière. Donc c'est une précision. Et vous précisez l'aspect négatif par l'aspect positif. Mais ne cherchons pas trop de logique, même aristotélicienne. Problème, donc, d'accords grammaticaux, premier récit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Sens du pluriel, première personne du pluriel. Faisons, c'est Dieu qui parle. Je sais très bien. Les pères de l'Église ont été très attentifs à ça. Faisons. Alors, est-ce que c'est les trois personnes divines? Parce qu'on ne parle, du faisons qu'à l'égard de l'homme. Dieu dit que la lumière soit. Alors, les pères de l'Église, hein, beaucoup de pères de l'Église, ont distingué le vestige de l'image. Distinction que vous retrouvez dans saint Thomas. Tout le monde physique est vestige du Créateur. Et le Créateur comme tel est un. L'image va plus loin. On est à l'image de la très sainte Trinité. Les trois personnes. Il y a la ressemblance de la très sainte Trinité. Donc ça, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'esprit. Or, les trois personnes sont bien un seul Dieu. Donc les trois personnes créent. Le Père crée, le Fils crée et l'Esprit Saint crée. Quand il crée le monde physique, il le crée par mode d'unité. Quand il crée des esprits, il les crée à leur image et à leur ressemblance. Vous voyez ? C'est au fond la différence entre l'unité et les trois. Et c'est là, c'est tout à fait normal que lorsqu'il s'agit de créer l'homme, créé à l'image de Dieu, faisons l'homme à notre image. Oui. Cette attitude, ce que je vous disais, cette attitude de réflexion, une attitude réflexive, de conscience plus grande, où alors les trois personnes sont là présentes. Il y a tout un article chez saint Thomas qui est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire que la très sainte Trinité est proprement créatrice du monde? Saint Thomas dit non. C'est le Dieu un qui est créateur du monde physique. Quand il s'agit de créer des esprits, donc de créer des êtres capables de remonter jusqu'à Dieu et qui ont un appétit naturel de la vision béatifique. Il y a donc une parenté foncière entre l'esprit créé par Dieu et la très sainte Trinité. Alors, à ce moment-là, on pourra parler d'appropriation. C'est-à-dire qu'on met un mot nouveau parce que le langage habituel ne suffit plus. Il y a une certaine ressemblance entre l'intelligence et la volonté. et la mémoire à l'égard de la très sainte Trinité. On va le voir tout de suite à propos de l'imago, l'image de Dieu. Et alors évidemment, le second récit, Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. En principe, ils devraient être créés mâle et femelle, ou alors mâle ou femelle. Non, le couple. Volonté de Dieu, c'est le couple, c'est pas mâle ou femelle, mâle et femelle. Pour bien montrer que le regard de la sagesse de Dieu regarde le couple. Et vous voyez, le Saint-Père, dans son exégèse particulière de la Genèse, insiste beaucoup là-dessus. Le regard de la sagesse de Dieu, c'est le couple. Pourquoi le Père Marie-Dominique n'a-t-il rien dit du jour 7? Parce que je le réserve. Je ne vous mets pas encore au repos. C'est vrai, le septième jour n'est plus la création. Et je parle de la création. Le septième jour, c'est le repos de Dieu. Comment la création des luminaires grands, qu'ils soient des signes pour marquer jour, fête, etc. Oui, les luminaires sont comme une précision de la lumière pour montrer les sources de lumière. La lumière est beaucoup plus vaste et on précise des causalités de la lumière. On me pose d'autres questions et puis alors on va arriver au septième jour. Ne vous inquiétez pas. On le réserve pour la fin de la semaine. Septième. Vendredi soir. Se repose. Alors, transcendance et immanence. Ça, c'est des gros mots philosophiques. Il faut bien comprendre. Transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Ce qui est au-delà, ce que on ne saisit pas d'un seul coup, c'est au-delà de nous, transcendant. Immanence, c'est ce qu'on porte en soi. C'est pour ça qu'on dira la vie est immanente et elle se développe d'une façon immanente. L'intelligence saisit l'autre et l'autre en tant qu'autre nous transcende toujours. Je prends exprès des exemples comme ça. Cogito, je pense, c'est immanent. Je pense à Pierre. Pierre transcende. Mais vous voyez, Descartes, en disant cogito, enveloppe tout l'entendement dans l'immanence. Petit défaut mignon de Descartes. Tandis qu'au contraire, quand je dis « je pense cogito », je cogite à Pierre, je cogite à propos de Pierre, à ce moment-là, je montre que ma pensée est ouverte à l'autre. Ce qu'il faut toujours, autrement ça s'asphyxie. Si vous ne pensez qu'à vous, vous en aurez assez vite assez. Quand vous pensez aux autres, ça change tout le temps. Oui, c'est la différence entre l'oraison et la méditation. La méditation, on médite à partir de ce qu'on comprend. L'oraison, on vit avec ce qui nous dépasse. Puisqu'on vit en présence de Dieu. Donc, à l'égard du Christ qui est au-delà de nous. J'espère que vous voyez bien. Quel type de grâce après la faute, mais avant le Christ? Autrement dit, la grâce de l'Ancien Testament. Nous allons voir ça. C'est pas encore vu. Parce qu'il faut, comme possible, avancer. C'est quand même très important d'avancer. J'ajoute encore quelques mots, justement le septième jour, sur ce que nous avons vu précédemment. J'ai essayé, vous voyez, je ne double pas la lecture du Saint-Père exprès. Je prends un autre point de vue, plus rapide, parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder trop, mais la lecture du Saint-Père précise des choses intéressantes. Vous voyez, entre autres, la solitude de l'homme, le point de vue de la corporéité, ce sont des thèmes chers au pape, qui proviennent du reste de toute sa philosophie antérieure. Ça, c'est très net. La solitude de l'homme. Comment se fait-il que l'homme est seul? Il a besoin de quelqu'un qui vient de lui. Et parce que la femme vient de l'homme, la femme ne transcende pas l'homme. Parce qu'elle vient de l'homme. Si la femme était donnée comme une martienne, arrivée en soucoupe volante sur la terre, vous voyez ça, le mythe qu'on pourrait donner aujourd'hui. Alors à ce moment-là, on pourrait dire la femme transcende. Non. Dieu veut montrer la connaturalité profonde, fondamentale, entre l'homme et la femme. Il y a une connaturalité fondamentale, elle vient de l'homme. Et donc, elle n'est pas étrangère. C'est pour ça que le premier Magnificat, c'est celui-là. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est l'homme qui le dit. Quand il dit « Ose mes os, chair de ma chair », il reconnaît qu'il y a une connaturalité. Et en même temps, elle provient directement de Dieu. Elle est un don fait à l'homme. Et c'est Dieu qui la donne. Et vous voyez, le premier homme n'a pas choisi son épouse. Il l'a reconnue. C'est Dieu qui l'a choisie pour elle, pour lui. C'est assez beau du reste. C'est assez grand ça. De voir que c'est Dieu qui l'a choisie. Et Dieu l'a choisie. Il a plongé l'homme dans la torpeur. Et Dieu l'a choisie pour lui. Ce qui montre, vous voyez, que dans le choix de l'épouse, et de l'époux, il y a quelque chose de sacré. C'est pas uniquement quelque chose de uniquement humain. Il y a quelque chose de sacré. Et vous comprenez très bien pourquoi. Parce que, de fait, l'union de l'époux et de l'épouse va impliquer comme fruit la procréation. Et la procréation n'est plus uniquement d'un ordre humain. C'est quelque chose de sacré, puisqu'il y a une intervention de Dieu. J'appelle sacré ce qui implique une intervention directe de Dieu. J'appelle humain ce qui est relation directe de l'homme avec l'homme. L'amitié est humaine, mais dans le mariage, il y a quelque chose de sacré. C'est pas n'importe quelle amitié. Il y a quelque chose de sacré. Parce que ordonné à la procréation, qui elle-même implique quelque chose de sacré. Il faut donc que ce choix. Et je crois que c'est la signification, vous voyez. Vous savez, on pourrait passer de longues heures à méditer tous les symbolismes qui sont employés. Puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur principal. Rien n'est de trop. Et tout a une valeur. Alors je crois que ça c'est très important. Et alors, d'autre part, la solitude de l'homme, dans le second récit, il faut bien distinguer, ça le Saint-Père a tout à fait raison, ne pas faire un cocktail des deux récits. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à regarder les choses. C'est un éducateur merveilleux. Alors il veut nous apprendre à regarder les choses. Quand vous êtes en face d'une très belle statue, vous vous aimez de la regarder sous des points de vue différents. Quand vous entrez dans une petite église romane, à Sénanque, pas une petite église, une basilique, une abbatiale, quand vous entrez à Sénanque, vous ne restez pas figé tout le temps sur le même point de vue. Vous aimez d'avoir des points de vue différents. Pourquoi ? Parce que nous avons deux yeux. Alors, il faut regarder les reliefs. Il faut regarder les points de vue différents. On n'est pas intuitif. Et c'est pour cela que Dieu nous apprend lui-même deux récits sur l'homme et la femme. Un récit dans la grande lumière de la sagesse. Un récit dans l'immanence de la bonté. C'est beau. Et ça nous fait toucher tout de suite les deux pôles de la création, la sagesse, la bonté. Et c'est bien l'immanence de la bonté. Et le second récit étant plus primitif que le premier, on doit l'aimer beaucoup plus. Il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin. Et de fait, on verra. Il y a une espèce de profondeur dans le second récit, quelque chose de très émouvant. Le pensée nous fait beaucoup mieux comprendre pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait l'homme et la femme. C'est vrai, c'est un des aspects très, très importants de comprendre cela, que Dieu l'a voulu dans sa bonté. Vous voyez, dans sa bonté. Les anges sont en dehors de la distinction mâle et femelle. Les hommes parlent toujours des anges comme s'ils étaient des hommes, et les femmes parlent toujours des anges comme si c'était des femmes. C'est une projection normale, c'est tout à fait normal ça. Et selon les traditions religieuses, on voit très bien. Ils sont au-dessus. Sont des esprits, comme Dieu. Tandis que quand il s'agit de l'homme et de la femme, Dieu veut tout de suite la distinction mâle-femelle. Pourquoi ? Premièrement, pour le mystère de la procréation. Et donc ça relève bien de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que le second récit, qui nous montre beaucoup plus la distinction de l'homme et de la femme, c'est la bonté de Dieu. Puisque Dieu, dans sa bonté, c'est une bonté féconde de Dieu. C'est une bonté qui est source des trois personnes divines. Qui est source des deux personnes divines. Puisque la première n'est pas engendrée. C'est une bonté qui est féconde, qui est source de vie, source de lumière. Dieu veut communiquer à la créature la fécondité. Source de vie. Source personnelle de vie. Source autonome de vie. Et c'est pour ça que Dieu a voulu cette distinction en vue de l'unité de la source de vie. Ils sont une seule chair. C'est très fort ça, pour qu'on comprenne bien comment la bonté de Dieu, pour se communiquer pleinement, implique cette distinction. Vous voyez, la distinction entre l'homme et la femme devra prendre surtout du côté de la bonté. Plus que du côté de la sagesse. Je pousse un peu. La distinction entre l'homme et la femme est moindre du côté de l'intelligence que du côté du cœur. C'est très curieux. Et les pères de l'Église ont souligné ça. Et les pères de l'Église ont pris tout le symbolisme de la côte. Les pères de l'Église disent, Dieu a bien choisi. Bon chirurgien. Il a pris la côte. Il n'a pas pris quelque chose de la tête. Il n'a pas pris quelque chose des pieds. Il a pris la côte. Tout proche du cœur. Pour bien faire comprendre que la complémentarité est de l'ordre de l'amour et pas premièrement de l'ordre de l'intelligence. Et pas premièrement du côté du service. La femme n'est pas esclave de l'homme. Le mari qui se sert de sa femme comme d'une esclave ou d'une servante n'est plus un homme. Toujours se rappeler ça. C'est un tyran. C'est plus un homme. Il tue l'amour. La femme qui voudrait être complémentaire de l'intelligence de l'homme, ça arrive de temps en temps. Oh, je suis bien plus intuitif que toi. Ah, c'est tout, logique, logique, tout le temps, tout le temps. Nous, les femmes, on est intuitives, bien plus loin. Il y a cette démangeaison, quelquefois. Il y a des hommes qui sont plus intuitifs que les femmes, il y a des femmes qui raisonnent plus que les hommes. Quand elles se mettent à raisonner, elles raisonnent très, très bien. Il y a des hommes, elles sont très contentes d'avoir appris la logique et de se mettre à raisonner. Elles aiment ça. C'est très vrai que la femme, quand elle veut être complémentaire de l'homme du côté de l'intelligence, elle agace l'homme. Il ne le dit pas tout de suite, mais il le dira un jour dans sa colère. Vous entendrez ça, j'en suis sûr. C'est tout là. Parce que c'est dans les colères. La colère est sérum de vérité, il ne faut pas oublier. De temps en temps, il faut susciter des petites colères pour voir s'il faut... Soupape de sûreté. Il n'y a pas de complémentarité du côté de l'intelligence. C'est du côté du cœur. Et c'est ça qui fait comprendre comment la complémentarité est du côté de la fécondité et du côté de l'éducation, pas du côté de l'instruction. Ça peut arriver, hein, ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire ? Une femme n'enseigne pas tout à fait comme un homme. C'est vrai. Quoiqu'il y a des femmes qui enseignent beaucoup mieux que les hommes. Point de vue enseignement. On dirait qu'elles sont plus maternelles. Mais non. La maternité n'est pas du côté de l'intelligence. Non. Elles ont une capacité plus grande d'adaptation. Ça, c'est vrai. Alors, il y aurait des tas de choses à regarder là-dessus. Et au cinéma. Comme c'est beaucoup plus difficile pour une femme de jouer un rôle qui n'est pas du tout en connaturalité avec ce qu'elle est. Je parle de la sainteté, et je parle de la dignité, de la valeur, de l'intelligence. Comme un homme joue plus facilement ces rôles-là. Je crois, d'une façon générale. Et pensez à ça, hein, ça fait partie du couple. C'est assez curieux de regarder ces choses-là. Il y a des choses qui sont... L'art manifeste. Il met en grand ce que d'habitude on ne voit pas. Parce qu'on le voit en petit. Et ça, ça joue beaucoup. Vous voyez ? Comment c'est la femme qui garde les traditions. La femme garde beaucoup plus ses traditions que l'homme. L'homme joue beaucoup plus facilement. Il aime de jouer, l'homme. La femme se fatigue beaucoup plus vite. Curieux. Il y a des tâches, et ça on le retrouve constamment. Alors je crois que ça fait partie de ce regard de Dieu sur l'homme et la femme, pour voir où joue la complémentarité. Et on rejoint ce regard des pères de l'Église, analysant ce symbole, à première vue, du haut. Mais oui, mais un chirurgien, fais attention. Un chirurgien n'attaque pas n'importe comment. Donc Dieu fait grande attention de prendre la côte de l'homme. Même si c'est un langage purement symbolique, ça veut dire quelque chose d'important. Donc là, il y a beaucoup de choses à regarder. Et alors, la solitude de l'homme, bien, on ne voit pas la solitude de la femme. C'est vrai, c'est pas montré. Il pourrait y avoir un troisième récit. Non, deux suffisent. Il n'y en a que deux. La solitude de l'homme, c'est sans doute, je crois, pour que l'homme n'ait pas la tentation d'une autonomie trop forte. Parce que c'est une des tentations de l'homme, c'est l'autonomie. Vous voyez, l'homme exerce ordinairement d'une manière l'autorité à cause de son autonomie. Entre l'homme et la femme, puisqu'il y a unité dans l'ordre de l'amour, au sens très strict, il n'y a pas d'autorité. C'est très délicat ce que je dis. Hein. Je parle au plan très strict, puisque dans l'ordre de l'amour d'amitié, il n'y a pas d'autorité. L'amitié ne vous donne pas un droit d'autorité sur votre ami. Non. Mais l'ami qui aime son ami reconnaît que son ami a des compétences plus grandes dans tel domaine. Il dira, dans ce domaine-là, c'est toi qui décides. Et l'autre dira immédiatement, dans cet autre domaine, c'est toi qui décides. Vous voyez, au fond, l'autorité est choisie par la compétence. C'est comme ça que ça devrait être. Il y aurait bien moins de conflits. Parce que c'est l'amitié. Et l'amitié est au-delà de l'autorité. Je vous dis ça très vite, il faudrait mettre des tas de bémols, des précisions. Mais on a beaucoup discuté ça à Rimont l'année dernière. Dans un point de vue philosophique. Vous voyez, le sacrement de mariage, je vous le dis tout de suite parce qu'on n'aura sans doute pas le temps de le voir, le sacrement de mariage donne à l'homme une autorité. Ah, ça, c'est curieux. Ça, on ne peut pas le nier, puisque c'est l'analogie de l'Église, du Christ et de l'Église. Et donc, le sacrement donne à l'homme une autorité. Et la femme le reconnaît. Une autorité qui vient du Christ. Qui n'est pas uniquement naturelle. Mais en même temps, le sacrement de mariage montre que cette autorité doit s'exercer dans l'amour. Donc, une autorité toute relative à l'amour réciproque, au choix amical. Et dans ce choix amical, il faut que celui qui exerce l'autorité reconnaisse que celle qui est son épouse, dans certains domaines, a plus de compétences que lui et donc doit exercer l'autorité. Tout ça, c'est dans l'Écriture, si on veut regarder attentivement. Donc, On veut montrer cette solitude de l'homme pour que l'homme ait une première expérience de la solitude. Dieu, dans son amour, veut que l'homme ait comme expérience fondamentale l'expérience de la solitude pour mieux accueillir son épouse. Il faudrait de temps en temps, dans un équilibre de foyer, des journées de désert pour que l'homme reprenne le sens de la solitude et par là reprenne le sens de l'accueil à l'égard de son épouse. J'en suis sûr, ça. Parce qu'on est trop proches l'un de l'autre, les sensibilités s'usent trop vite. Et alors à ce moment-là, on n'a plus la même intimité. Et des journées de désert, qui seraient des journées de prière et de travail, dans un consentement mutuel, toutes les semaines, permettrait, j'en suis sûr, de retrouver la pédagogie royale de Dieu qui a mis l'homme dans la quarantaine pendant un certain temps, sans lui demander son avis. Mais il en avait besoin. De le mettre dans cette solitude pour qu'il devienne accueillant. L'homme n'est pas tellement accueillant. Il a une autosatisfaction assez grande, qui est bonne du reste, hein, qui est bonne, il faut que l'homme ait ça. Et l'épouse lui demande d'avoir ça, d'avoir quand même suffisamment d'autonomie. Un homme qui n'a aucune autonomie, c'est très ennuyeux. Il ne faut pas s'appuyer sur lui, il s'écrase. Il faut qu'il ait son autonomie. Et l'autonomie lui donne le sens de la solitude. Mais il faut que cette solitude soit relative et qu'il comprenne qu'il y a autre chose. Je ne dis pas plus, parce que vous pourriez continuer. Ce serait très intéressant, vous voyez. Parce que je crois que face à tous ces livres d'ordre psychologique d'aujourd'hui, entre l'homme et la femme, il est grand temps de donner une lumière théologale. Autrement, on dira des grosses bêtises. On dira des grosses bêtises. Quand la femme fait le plaidoyer de la femme, l'homme ne fait pas tellement le plaidoyer de l'homme. Mais ça peut agacer l'homme. Quand même, oh, alors on va faire maintenant le plaidoyer de l'homme. Vous allez voir. Quand la femme veut la libération de la femme, attendez que l'homme demande la libération de l'homme. Mais c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Et que psychologiquement, on ne peut pas. On dira des bêtises. Il faut qu'il y ait un regard de théologien. Chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva le septième jour. Oui, vous l'avez bien entendu, donc vous l'accueillez. Dieu acheva le septième jour, le travail qu'il avait fait. Le travail qu'il avait fait. En réalité, travail est pris là d'une façon très métaphorique. C'est pas tout à fait ça le texte premier. C'est pas le travail, c'est plus l'œuvre, œuvrée. Il chôma. Dieu repart au désert. J'ai été assez longtemps avec l'homme. J'ai œuvré avec lui. Il chôma. Le désert est toujours chômé. Septième jour, il chôma. Le septième jour, après tout le travail qu'il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, Dieu avait chômé. Mais une excellente raison pour comprendre la sanctification. De là, les pères de l'Église diront, le repos, c'est la sanctification de l'homme, parce que c'est la contemplation. Dieu bénit le septième et le sanctifia, parce qu'en ce jour, Dieu avait chômé après tout le travail qu'il avait fait en créant. C'est très très joli, hein. C'est un symbolisme très 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 fort. Il faut expliquer, vous comprenez ? Il faut expliquer le Shabbat. Le septième jour, on ne travaillera pas et on sanctifiera ce jour. Alors, il faut l'expliquer. Pour cela, on dit, mais oui, sixième jour, septième jour, mais oui. L'au-delà du travail, l'au-delà de la création, c'est Dieu qui vit en Dieu. Et quand Dieu vit comme Dieu et en Dieu, Dieu n'œuvre plus. C'est magnifique pour montrer comment Dieu n'avait pas besoin de la création. Si Dieu avait besoin de la création, Dieu n'aurait pas chômé. Vous savez bien, quand un homme arrive à un certain âge, on le met à la retraite. Et c'est rude pour l'homme d'être mis à la retraite. Pourquoi ? Parce que l'homme est trop dépendant de son travail. Si l'homme adorait plus et contemplait plus, il serait très heureux d'être mis à la retraite. Cette petite histoire très belle d'un grand théologien, je ne dis pas le nom, qui avait, pendant toute sa vie, œuvré en théologien à l'angélique. Et qui, pendant toute sa vie, avait montré la supériorité de la contemplation sur le travail. Arrivé à la fin de sa vie, il avait pris tellement le rythme de donner des cours, il continuait tout le temps. Et tous ses confrères qu'il aimait beaucoup avaient envie de lui dire non, 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 il faut arrêter. Parce que vous ne voyez plus, il y a des choses qui ne sont pas dignes de vous, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes fatigué. Elle ne savait pas comment le dire. Alors on avait demandé à un grand ami de ce professeur de lui dire: Père, toute votre vie, vous avez dit que la contemplation était plus parfaite. Maintenant, entrez dans la contemplation. Chômez. Alors il lui a dit ça, et c'est ce père qui m'a dit raconter cette histoire. Ça n'est pas passé dans la presse. Un inédit. Alors ce père lui dit, mais père, je crois qu'il vaut mieux ne plus faire de cours. C'est pour ça que je demande toujours à mes étudiants de me dire le jour où je devrais cesser pour chômer. Parce qu'il y a un jour où ça arrivera, c'est pas possible autrement. Le conditionnement de la vieillesse l'emporte sur la détermination de l'intelligence. Le conditionnement de la vieillesse fait qu'on n'est plus finalisé comme on devrait l'être. Par le point de vue de la vérité. Alors il dit ça à ce bon professeur, vous devriez arrêter. Alors le professeur dit, ah oui, c'est vrai, j'ai enseigné ça toute ma vie, mais autre chose, l'enseigner et le faire. Très joli ça. Vous voyez, Dieu n'a pas de difficulté de chômer parce qu'il crée en surabondance. Le cœur de Dieu est en Dieu, en premier lieu. Il est aussi dans sa créature, mais en second lieu. Et la créature doit chercher le cœur de Dieu en Dieu et non pas uniquement dans la créature. Dieu est amour. Et Dieu ne crée pas par nécessité. Et donc, ce symbolisme du chômage est très très important pour bien montrer que Dieu crée gratuitement et que la créature n'ajoute rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Je parle au plan de la création et non pas de la recréation. Dieu n'a pas besoin de sa créature parce que Dieu crée par pur amour dans une gratuité absolue. On ne peut rien ajouter à Dieu parce que Dieu est infiniment parfait. Dieu ne serait plus Dieu si on lui ajoutait quelque chose. Et donc, c'est très important ce chômage. Mais Dieu, patron des chômeurs. Mais le sanctifia. Alors, allez dire aux chômeurs de sanctifier leur chômage. S'ils faisaient ça, peut-être que Dieu aurait une très grande miséricorde. Le chômage est fait pour être sanctifié. Parce que Dieu a horreur du vide. Et la sanctification, c'est l'adoration et la contemplation. Et on fait tout alors dans un regard nouveau. Dieu chôma. Et pendant que Dieu va chômer, l'homme va se sentir particulièrement libre. Et nous allons avoir l'histoire de la catastrophe. Et l'histoire de la catastrophe, c'est le récit de la première faute, la chute. Chapitre 3, la chute. Et Dieu s'est reposé. Vous savez bien, quand un surveillant se met à dormir, tous ceux qui sont surveillés repèrent ça immédiatement. Et à ce moment-là, leur fantasia commence à s'exciter. Je crois qu'il y a un peu ça aussi. Mais le chômage de Dieu, c'est symbolique, hein. Donc ça a des significations multiples. Il y a la signification moralisante pour le Shabbat. Il y a la signification plus théologale pour la gratuité. Il y a aussi la signification par rapport au gouvernement de Dieu. Dieu laisse sa créature libre. Pour laisser sa créature libre, il faut nécessairement le chômage de Dieu. Il faut nécessairement ça. Il faut que Dieu montre qu'il laisse l'homme libre. Organiser sa vie comme il l'entend. Vous voyez, au moment même de la création, il n'y a pas de danger, on est dépendant de Dieu. Mais c'est le lendemain, donc le septième jour, puisque c'est le lendemain. Et à ce moment-là, l'homme se sent libre. Alors nous allons entrer, puisque ça, ça fait partie du regard théologal sur l'homme et la femme, indispensable. La chute. Chapitre 3. Vous allez voir qu'il faut regarder du chapitre 3 au chapitre 11 les grandes chutes. Première chute, Ève. Et la chute est tout de suite contamineuse, Adam. Mais il y a un ordre. Ève est première. Je n'en peux rien. Ève est première. Elle a été séduite par le troisième personnage, le serpent. Très symbolique. Deuxième chute. Cain face à Adèle. Là, la chute n'est pas contamineuse. Abel est égorgé. Tué. Parce qu'Abel est très gênant. Il capte les faveurs de Dieu. C'est gênant de vivre à côté d'un saint. Toutes les pluies sont pour lui. Le terrain à côté est sec. Les faveurs de Dieu. Dieu n'en a que pour Abel. Vous comprenez, pauvre Cain. Surtout Cain, il est l'aîné, le premier. Abel, c'est le second. Dieu devrait respecter l'ordre naturel du droit d'aînesse. Quand même, hein. Il adore, demeure l'aîné et louche sur Abel. Et donc, il n'adore plus. On ne peut pas adorer en gardant des galons. Il y a un passage merveilleux dans l'Apocalypse où on voit que les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en tant que patron, en tant que philosophe, en tant que professeur, en tant qu'ouvrier, en tant qu'artisan. Vous adorez Dieu en étant une petite créature. C'est ce que fait spontanément Abel et c'est ce que ne fait pas Cain. Troisième faute, l'iniquité généralisée. Oui, ça, c'est la faute collective, comme on dirait aujourd'hui. Y a-t-il des fautes collectives, hein? L'iniquité généralisée. Alors, Dieu punit le déluge. Mais au milieu de tout ça, il y en a un qui a la faveur de Dieu, Noé. Quatrièmement, et tout est repris avec Noé. Noé, c'est comme un nouvel Adam. Un nouvel Adam. Très curieux. Et les hommes ne comprennent pas cette nouvelle miséricorde. Et alors vous avez la tour de Babel. L'orgueil collectif. Des hommes. Très curieux. Très étonnant. Voyez ? On va regarder en détail, surtout la première, mais je vous donne exprès toutes, parce que c'est la théologie du péché. Et la théologie du péché se donne tout de suite dans la multiplicité. Le péché engendre la multiplicité. Alors, on va tout de suite noter, Ève désobéit dans l'orgueil. Un orgueil personnel. Elle veut passer avant Adam. De n'importe quelle façon. Elle passe avant Adam. Elle peut être première. La connaissance du bien et du mal. Tiens, la jalousie. La jalousie religieuse, fratricide. Oui, il y a des jalousies pontificales, ça existe. Jalousie religieuse, fratricide. Puis, l'iniquité généralisée, c'est le manque de respect, le non-respect. Le non-respect à l'égard de l'image de Dieu. Donc ça touche le point de vue de la justice. C'est l'injustice. Puis, l'orgueil collectif. Très curieux, hein? Il y a là quelque chose de très très fort. Parce que vous avez toutes les modalités de la faute. Ce qui est intéressant serait de voir si c'est exhaustif. Ça ne peut pas être exhaustif, hein? Parce que le péché est anarchique. Là, il n'y a rien d'exhaustif du côté du péché. Mais on saisit les pointes. L'orgueil à l'égard de Dieu, à l'égard de l'amour de Dieu, la jalousie, c'est à l'égard de la charité fraternelle, la justice, c'est à l'égard de la communauté humaine. Et l'orgueil collectif, c'est encore la communauté humaine. On verra ça tout à l'heure. On entrera dans la première faute. On n'aura pas le temps de voir toutes, mais je vous les indique, parce que c'est quand même très beau à voir ça.